Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay, en compagnie de Mélina Lopez-Nadeau.
Bonjour!
Et de François Genet.
Bonjour!
Et comme chaque semaine, on vous présente notre Cinébrunch, pour ne pas dire votre Cinébrunch, votre émission sur le cinéma, dans laquelle on vous propose différents contenus. Hein,
C'est très bien dit, ça, pour vrai. Je pourrais pas dire mieux.
Non, mais il va y avoir donc des critiques, parfois des critiques communes, parfois des débats, des quiz, on s'amuse bien. Et cette semaine, on vous propose des critiques de films. Donc, on va critiquer trois films, évidemment, quelques nouvelles avant. Trois films, les trois films suivants, Donne-moi des ailes, Ma folle semaine avec Tess.
Oui.
Et La fameuse invasion des ours en Sicile, dont le nom est, ma foi, vraiment bien choisi. C'est vraiment intéressant. Donc, Mina, t'as vu le film des ours et je l'ai vu avec toi. Donc, on aura la chance d'en parler
ensemble.
Oui. Et François, toi, t'as été voir le film. Donc,
Ma folle semaine avec Tess.
Ben voilà.
Tout à fait.
Alors, j'espère que ta folle semaine ne t'empêchera pas de
dormir.
Oui, c'est ça.
Ben, ça a été, c'est intense quand même. Tu passes à travers ce film-là. Tu te dis, mon Dieu, c'est intense. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec ce film-là? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? On
exactement.
Va savoir deuxième demi-heure.
Un peu plus tard dans l'émission. Merci. Voilà. Sinon, quelques nouvelles. Hein. Commençons comme ça. Mélina.
Oui, en fait, grande nouvelle pour ceux qui attendent comme moi impatiemment la refonte de la série Gossip Girl, donc qui était sortie en 2007.
Public dont je ne fais pas partie, donc continue. Oui,
oui, donc c'est ça. En fait, je savais même pas, mais en fait, ça va sortir, c'est annoncé pour être sur la nouvelle plateforme HBO Max, qui est une nouvelle plateforme de streaming de HBO qui va être disponible à partir du mois de mai 2020. Et c'est ça que je savais pas. Je savais pas, en fait, que HBO travaillait sur une nouvelle plateforme de streaming, en fait. Mais c'est pas ça, ma nouvelle.
Mais ils ont déjà une plateforme de streaming.
Ils ont déjà une plateforme de streaming. Je me suis...
C'est comme un Inception de nouvelles. C'est intéressant comme nouvelle. J'aurais aimé qu'on en parle.
Oui, c'est ça.
Mais Inception de nouvelles.
C'est un Inception de nouvelles. Dans la nouvelle, il y a une autre nouvelle dont on ne parle pas vraiment.
Dont on
ne
parle pas.
Parle.
Qui est peut-être plus intéressante.
Mais j'aurais aimé en parler, oui, parce que ça m'intéressait beaucoup plus.
Bon,
que
mais
ta
on
nouvelle.
Fera un tour de table, puis après ça, on viendra à celle-là. Okay, je vais parler de ma première nouvelle. Donc, pour les fans, comme je disais, de Gossip Girl, on a révélé un peu plus tôt cette semaine qui seraient les cinq acteurs à jouer parce qu'on a dit que les acteurs originaux ne reviendraient pas dans le reboot. Donc, il s'agit de Emily Allen Lind, qu'on a vu dans le feuilleton Code Black. Et sinon, Whitney Peake, qu'on avait vu dans le Chilling Adventures of Sabrina sur Netflix.
Ah oui, pour vrai? Qui jouait Sabrina?
Non, une autre.
Ah, OK.
Une de ses amies. Ellie Brown. Jonathan Fernandez et Jason Gauthier. Donc, c'est encore Josh Schwartz et Stephanie Savage qui travaillent sur cette série-là. Donc, ceux qui avaient travaillé sur Gossip Girl en 2007 et qui avaient travaillé sur D.O. aussi Newport Beach en 2004. Et ce qu'on dit, c'est quand même... Moi, je continue à parler parce que je trouve ça quand même intéressant. Parce qu'à l'époque où Gossip Girl est sorti, vous savez, à la base, c'était une série de livres. Et ensuite, elle a été adaptée série télé en 2007. Et à cette époque-là... Bon, vous savez, ça tourne beaucoup autour d'un personnage que personne ne sait vraiment c'est qui s'appelait Gossip Girl, puis à qui les gens envoyaient des potins sur les gens, puis là, elle les retweetait sur son blog. Ben, elle les renvoyait sur son blog avant que...
Ça explique le nom.
Oui. Mais c'est ça, mais c'est que tout ça se passait avant Facebook et avant Instagram et avant, c'est-à-dire on a commencé en 2007, fait que c'était pas vraiment inclus. Et là, on dit...
Fait que c'était dans des post-it qu'on mettait dans les casiers? C'était quoi,
non,
le...
mais c'était des courriels qui étaient envoyés sur... C'était...
Il y avait quand même Internet.
Il y avait Internet, il y avait des courriels, mais il y avait pas la place que les réseaux sociaux ont aujourd'hui. Donc, ce qui va être intéressant dans ce reboot-là, dans cette refonte qu'on attend tous impatiemment, c'est de voir... Comment on va intégrer maintenant les réseaux sociaux? Parce que c'est une série qui aborde.
Ça,
ben, c'est sûr qu'ils vont l'aborder, mais ça va être différent.
Mais ça change la game.
Ça change la game. C'est ça qui est intéressant.
Complètement.
Ça change complètement la game de Gossip Girl. Fait que c'est ça. Ça, j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça.
Est-ce qu'ils vont mettre un sous-titre, Gossip Girl, The Game Changer?
Non, mais d'habitude, est-ce qu'il y a tout le temps à la fin, XOXO, Gossip Girl? Et je vais terminer avec ça. Ça va être encore Kristen Bell qui va faire la voix de Gossip Girl, comme dans la version de 2007. Wow!
Hey, on n'est-tu pas choyés, Jim?
Je sais pas quoi dire.
Tu sais, des fois, la vie nous fait des cadeaux. Oui, faut l'accepter.
Oui, oui. Hein? Bon, j'imagine. voilà, merci Mélina. François.
Oui, ben écoute, moi je vais aller avec une nouvelle un petit peu, pas pertinente, comme on appelle. Non, mais en fait, c'est que...
tu continues dans la vague.
Oui,
dans...
ben
bon,
souvent...
Bon, bon.
Non, mais en fait, c'est que dans le fond, des fois, il y a des statistiques qui sortent, puis je trouve ça quand même intéressant, parce qu'on peut faire dire ce qu'on veut à des chiffres,
absolument.
Hein, Jim?
C'est bien connu,
donc,
oui,
donc c'est pour ça que je trouve que des fois, bon, on est capable de faire une nouvelle avec ça, je le vois passer, je trouve ça un peu drôle, et on va en parler un petit peu, mais on va voir après ça qu'est-ce que t'en penses de ces statistiques-là. En fait, oui. Supposément, selon certaines statistiques qu'on a révélées, il y aurait une baisse de 2% de l'assistance dans les cinémas québécois et des recettes qui auraient baissé aussi de 1% en 2019 par rapport à 2018. Par contre, supposément qu'en Abitibi-Témiscamingue, ça serait une autre réalité.
Ah
totalement.
Oui?
Il y aurait eu une hausse de 3% grâce au film québécois.
Est-ce qu'il y aurait une exode vers l'Abitibi qui expliquerait une exode des cinéphiles?
Ben, en fait, le cinéma Rift de Ville-Marie, qui est là-bas aussi, aurait enregistré 7000 à 8000 entrées en 2019, ce qui serait donc une hausse pour eux. En fait, ils expliquent ça par les films québécois qui font déplacer plus les gens, mais aussi les films québécois qui auraient été faits en région, des fois, des films plus régionaux.
Les gens connaissent des gens, puis
donc,
les gens connaissent l'endroit.
Effectivement, oui. Donc, ceux qui font encore plus déplacer les gens, donc, il y aurait une hausse là-dedans, puis évidemment, plus t'as un petit marché, plus c'est facile de faire changer des pourcentages aussi. C'est tout le temps ça, hein?
Petit marché, ça court moins vite.
Ouais. Là.
Mais, okay,
donc,
mais
tout à fait. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça quand même drôle, entre guillemets, parce que c'est le titre des nouvelles, c'était vraiment l'Abitibi-Témiscamingue qui
est migrate. Mais 3%, ça demeure quand même relativement...
Mais surtout que là, les chiffres que j'ai, c'est marqué 7000 à 8000 entrées en 2019, ce qui voudrait dire que... à ce cinéma-là, évidemment.
C'est un gros film.
À ce cinéma-là, mais c'est ça. Donc, évidemment, si les chiffres sont réellement plus petits comme ça, bien évidemment, le nombre de pourcentages, si c'est 3% de plus, bon, ça veut pas dire chose, mais c'est pour ça que je trouvais ça un petit peu cocasse, un peu comme nouvelle.
Ben oui, on cherche tous des nouvelles pour nous.
Non, mais je trouve cocasse quand même que l'Abitibi-Témiscamingue se soit relevé là-dedans dans ces chiffres-là. Mais par contre, c'est quand même quelque chose d'intéressant, je pense, de dire comme quoi que des films québécois nous font plus déplacer et des films régionaux est encore un facteur pour le déplacement en cinéma. Je trouve que c'est quand même une nouvelle dans la nouvelle. Quand on parlait d'Inception, la nouvelle tantôt, je pense que c'est ça plus la nouvelle là-dedans, dans cette nouvelle-là, autre que la statistique qu'on peut lui faire dire n'importe quoi. Je pense qu'en arrière de tout ça, je pense que c'est intéressant de dire que les gens se déplacent encore plus pour les films d'ici et les réalisateurs d'ici.
Ouais.
Donc, je trouve ça quand même intéressant.
Ou est-ce que c'est un autre public qui ne se déplace que pour les films d'ici? En tout cas, il faudrait voir les statistiques.
Faudrait voir les statistiques, mais il y a une question en arrière de tout ça qui est intéressante, je pense, qui est... Il y a comme le gros brouillard de la vraie nouvelle, mais en arrière, il y a une vraie nouvelle, il y a comme une ville.
Et beaucoup loin derrière, les fausses nouvelles, mais ça, on en trouve
pas. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a des grandes métaphores de brouillard qu'on peut expliquer ici.
C'est fascinant. Moi, je vais vous parler de James Bond. La semaine dernière, je vous en ai parlé quand même déjà pas mal. Mais grosse nouvelle, plutôt mauvaise nouvelle, en fait, pour les fans qui ne seront pas tout à fait contents. La sortie du film qui était prévue pour le mois d'avril a été reportée en... novembre, le 25 novembre, à cause du coronavirus. Donc, c'est une décision de la MGM et d'Universal en lien avec l'épidémie de coronavirus qui se propage en Europe et en Asie et partout dans le monde, selon l'endroit. Donc, on a probablement évalué que le momentum pour le box-office n'était pas intéressant. Puis je comprends qu'il n'y a pas une compagnie qui veut sortir un film à un moment où un public relativement cible ne va pas se déplacer.
Les chiffres vont être évidemment moins bons.
Ouais. Et là, on peut se dire, ah, ben, on va sortir à l'été, mais là, on va compétitionner avec d'autres gros films qui sont prévus, comme Marvel, des choses comme ça.
Ouais.
Fait que je comprends que, bon, c'est très dommage. Honnêtement, j'attendais avec impatience
ce film. Moi, je l'aurais sorti en juillet pour 07. Mais ça, c'est moi, encore là.
Le 7 juillet.
Oui, le 7 juillet.
Ouais, ça aurait été parfait.
Ça aurait été... Ouais, mais bon, non, ça, c'est moi.
On voit que tu n'as pas travaillé aux communications chez eux. mais non, malheureusement, donc novembre, c'est quand même assez loin. C'est même très loin. C'est triste.
C'est excessivement loin. Hein,
en tout cas, on va attendre ça. On va voir ce qui va se passer, honnêtement.
Mais ça va être avant Avatar 5. C'est ça ce qui est
faisable. Ah, il y a des chances. Il y a beaucoup de chances, oui. Même avant Avatar 2, probablement.
Oui, 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 tout à fait.
Mais non, c'est ça. Ça lève tout un débat, tout un sujet. Peut-être pas un débat, mais un sujet sur ce qui va se passer par rapport au cinéma et ce virus-là. Et d'autres virus, parce que je pense que les gens vont de plus en plus, dans certains pays en tout cas, éviter de se déplacer dans les endroits publics. C'est triste à dire, là. Je pense qu'il y a peut-être pas une euphorie, c'est quoi l'inverse de l'euphorie, la dysphorie? En tout cas, il doit y avoir un...
Il y a
un momentum vers le bas. Et ça, je pense que c'est pas pour aider les statistiques dont tu parlais tout à l'heure. Je sais pas si jusqu'au Québec, ça va avoir un impact, mais clairement, dans certains pays, ça va avoir un impact sur le cinéma. Et j'ai comme l'impression, mon flair me dit, que les réseaux de diffusion par Internet vont certainement aller récupérer ce marché-là. Je pense pas que les gens vont arrêter de voir des films. Je pense simplement que les gens vont rester chez eux plus souvent.
Ouais, ben, donc, je pense qu'effectivement, ils vont profiter de ce moment-là pour essayer d'aller les chercher. Et justement, parlant de coronavirus de système de streaming, écoute, le film Contagion sur Netflix, le film de Steven Soderbergh, est-ce que tu as vu, James?
Non, je ne l'ai pas vu. Non, je n'ai pas vu.
Moi non plus, je ne l'ai pas vu, mais dans le fond...
Tu as vu la bande-annonce.
Oui, ben moi, c'est je m'arrête là, hein, dans le fond. Supposément que c'était quand même un gros succès depuis le début de l'épidémie de coronavirus, parce que justement, c'est un film quand même qui parle quand même d'une épidémie, puis c'est quand même assez réaliste. Ça explique une épidémie un petit peu comme on semble vivre un petit peu présentement. Et dans le fond, avec un film avec Jude Law, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow, qui montre dans le fond une épidémie mondiale et mortelle. Et là, dans le fond, il y a du monde qui sont commencé à dire « Hey, mon nous! » Netflix l'a retiré de son catalogue. Là, sur Twitter, ils ont commencé à poser des questions. Les gens sur les réseaux sociaux ont dit « Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont retiré ce film-là de leur catalogue? » Et là, ça a soulevé vraiment...
S'ils ne l'avaient pas retiré, ça aurait aussi créé...
Tout à fait.
Pourquoi vous laissez cela? C'est incroyable, on ne peut plus rien faire, en fait.
Mais selon les informations, en plus, c'est encore plus drôle que ça, parce que selon les informations qu'on aurait eues, en fait... Ça serait un hasard complet avec le coronavirus et l'absence. C'était la fin des droits.
Ah oui, carrément. C'est incroyable.
C'est ça.
On ne peut absolument plus rien faire sans qu'il y ait un problème.
Donc, il serait arrivé le 15 février 2019 sur Netflix. Il serait sorti le 15 février 2020. Selon ce que certaines personnes disent.
Donc, je suis déçu d'avoir manqué ce film qui, malgré lui, porte polémique.
Oui, tout à fait.
Bon, enfin.
Donc, quand même, des fois, il ne faut pas tout le temps essayer. Des fois, on essaie de relier tous les points dans l'univers pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais des fois, ce n'est que hasard. Hein?
Tout ça est réjouissant. Merci, François. Mélina?
Oui, en fait, une nouvelle super intéressante pour vous. Il y a une nouvelle plateforme de streaming qui...
Non!
HBO?
HBO Max.
Mais c'est quoi cette histoire-là? Il y avait déjà une plateforme HBO.
En fait, il faut démêler les choses. Premièrement, HBO Max ne viendra pas vraiment au Canada. C'est comme un...
Ça va être par Crave,
exactement. Donc, ouais, Bell, qui est propriétaire de Crave, a signé les droits parce qu'ils ont déjà accès au catalogue HBO Go. Donc,
il y a HBO Go, il y a HBO Now,
puis il va y avoir HBO Max. Ce qu'on dit, c'est que le catalogue d'HBO Max va contenir 10 000 heures de visionnement, contrairement aux deux autres catalogues qui en contiendraient environ 2 000. Donc, on va aller... HBO Max, c'est vraiment... pour concurrencer Netflix et tout ça, alors qu'on pourrait comparer, je crois, HBO...
Now, à un tout.tv, peut-être?
À un tout.tv, exact.
À un côté de rattrapage.
Qui est rattrapage, OK, je comprends.
Peut-être plus rattrapage.
Alors là, on est vraiment dans un catalogue sur demande.
Quoi que tout.tv rendu plus que ça, là?
Ouais, probablement.
On peut comparer avec Clubilico, probablement.
Ouais. OK, donc...
Mais là, on va être... On est vraiment... Parce que nous, dans le fond, on est habitué avec Crave à avoir le catalogue de HBO, même si...
Mais
il
faut
si...
quand même payer l'extra pour aller chercher les séries
abonné,
un peu plus premium. Là.
Exact.
Oui, OK.
Mais avec cet abonnement-là, on va avoir accès aussi au catalogue HBO Max. Et c'est sûr, dans le fond, HBO Max, Friends, ça a été annoncé que Friends, la série, allait partir de Netflix, parce que ça l'appartient à HBO, et ça va s'en aller sur...
HBO Max.
Et bravo, François, oui, sur HBO merci. Max.
Et on était dans le quiz.
Exactement.
Et
j'ai été trop lent sur le piton.
Oui, c'est ça.
Il semblerait qu'il va y avoir une série aussi sur Monsieur la Lanterne Verte de l'univers. Green Lantern. Exactement.
Ah oui, ça a été donné. Fait que, donc, l'univers DC qui se propage sur HBO. Mm-hmm. Bon, OK.
Donc, c'est un peu ça le principe. Donc, nouveau joueur. Mais pour nous, au Canada, en fait, si vous êtes déjà abonné au forfait premium de Crave, ça va. C'est ça.
D'après moi, ils vont encore. Il va falloir payer encore plus.
Mais ils l'ont dit, en fait, que ça serait inclus dans le, déjà dans le, forfait, dans le forfait premium. Est-ce okay. qu'ils vont monter les
monter
prix?
Le prix, ouais, c'est ça. Parce que
quelques mois.
C'est sûr qu'il y a quelque chose.
C'est
là,
ça, parce que quand on parle d'un nouveau service de streaming, est-ce qu'on parle d'une nouvelle application ou juste d'un nom différent qui est un forfait différent à l'intérieur même d'une même plateforme?
Ah oui, peut-être.
C'est ça aussi, parce que tu dis au niveau informatique, créer une nouvelle application, mm-hmm. un nouveau système.
Est-ce que ça
système,
va être juste une, ouais, bon, du nouveau contenu puis un nouveau nom?
Oui, c'est ça.
Ben on va voir, en fait, on verra. De toute façon, au Canada, on l'aura pas.
Est-ce qu'on pourrait l'avoir tout mis ensemble? Tu sais, pour les gens aux États-Unis, est-ce qu'ils mm-hmm. pourraient l'avoir tout ensemble si t'es abonné à tout ça?
D'après moi, les gens abonnés doivent avoir
accès à un paquet.
Ça doit être rétro-compatible.
Ouh,
les. Ça fait longtemps que j'avais pas mis ce terme.
Oui, ouais, c'était ton défi de la journée,
oui,
je pense.
Oui, c'est mieux qu'autre chose.
Donc, c'est ça. L'offre continue de se bonifier et de se diversifier de façon quand même assez impressionnante dans les deux dernières années, je trouve.
Et on s'est rendu compte aussi que les vieilles séries, entre guillemets, valent quelque chose.
Mm.
Sur les streamings, le rattrapage, on s'entend qu'on s'arrache les séries des Friends, par exemple.
Des
vieilles séries comme ça, qu'on dit ça a une plus-value d'avoir ça sur nos services mm-hmm. de streaming. Fait que, je pense
oui, parce que des fois, c'est des trucs qu'on ne peut pas voir en ce moment à la télé ou en direct. Des choses comme ça que les gens veulent revoir parce que ça a marqué leur enfance ou leurs parents leur en ont parlé. Donc, ou c'est juste des classiques aussi. Donc, c'est quand même intéressant. Puis je vais finir là-dessus parce que Netflix a sorti un petit nouveau truc quand même très intéressant. Bon, du moins, moi j'ai trouvé ça
pas
quand
Netflix
même
Max.
Non, en fait, maintenant, avec la dernière mise à jour de l'application, on peut maintenant voir c'est quoi le top 10 dans notre pays des choses les plus écoutées. Donc, il y a une nouvelle section.
Ben, j'ai entendu parler de ça. J'ai jamais le droit de trouver ça, moi. Je dois avoir une vieille version de l'application.
Oui,
j'ai pas vu ça.
Mais moi, je l'ai vu sur mon Roku et sur mon iPad aussi. Donc on voit...
Mais est-ce que tu te souviens qu'est-ce qu'il y avait présentement? C'était quoi les tops?
Oui, ben, il y avait la série de réalité où des gens se demandent en mariage avant de se voir, qui était diffusé en 3 épisodes le dernier.
J'ai entendu parler de ça cette semaine.
Oui,
mais
ça
m'a pas intéressé.
Ça pogne ces choses-là. En fait, de ce que j'ai compris, ils se communiquaient avant. Ils se voyaient pas, mais ils communiquaient ensemble. Okay. Et là, je pense que pour la première fois, ils se voyaient peut-être au moment où il fallait qu'ils disent oui. Puis là, ils disaient oui, ils disaient non. Je sais pas, en fait. Je l'ai pas écouté, comme vous pouvez le voir.
Oui, non, c'est ça, toi aussi.
On
est à l'aveugle quand on parle de ça aussi.
Exact. Alors, François, on s'attend à un compte-rendu complet de cette série télé-réalité pour la semaine prochaine. Merci, Mélina.
Merci.
Et je vais faire un bout là-dessus. Donc, parlant de Roman Polanski, Mélina, je te propose de te parler de... En fait, je vous propose à tous de vous parler, encore une fois, de Luc Besson. En fait, pas de Luc Besson directement, mais de San Van Roy, qui avait donc déclaré qu'elle avait été agressée par Luc Besson sexuellement. Donc, encore du nouveau au niveau de San Van Roy, qui a spécifié sur son compte Twitter que sa vie avait changé depuis qu'elle avait porté plainte contre Luc Besson. Elle dit « J'ai eu zéro casting en France depuis que j'ai porté plainte et mon agent m'a laissé tomber. Je suis fauchée. J'ai repris mes études, mais je n'ose échanger avec les autres étudiants car quand on me cherche sur Google, on croit que je suis menteuse et une pute. » Quelques heures plus tard, la comédienne néerlandaise écrivait toujours sur son compte Twitter « Quand on parle, on est blacklisté. » Donc, ça va pas très bien pour Madame Van Roy. On va que ce soit Madame
Roy.
Hein?
C'est terrible.
Oui, bon, enfin, c'est ça. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre de commentaires-là. De son côté, on n'a pas de nouvelles de Luc Besson comme tel dans cette histoire-là. C'est pas mal, je pense, mort dans l'œuf. Je me souviens plus d'ailleurs s'il a été obligé de payer une amende pour ses chevreuils. Là. En tout cas, il s'en passe des choses autour de Luc Besson. Ça va pas toujours bien. Voilà, c'est tout pour les nouvelles. Hein. Je pense qu'on en a assez dit.
Bien joué.
Ça suffit pour aujourd'hui. Voici maintenant votre Cinébrunch.
Thank you.
et c'est le moment de parler d'un film d'ours, Mélina.
Oui, la fameuse invasion des ours en Sicile. Mais
quel nom étrange.
Quand même, hein, c'est donc un film d'animation.
Est-ce que c'est un film historique?
Je n'ai clairement pas
vu le film, mais je ne sais pas, la fameuse invasion des ours en Sicile, ça pourrait être tentant de
À l'intérieur du film, on a l'impression que c'est basé sur des faits réels, mais bon, je suis pas mal certain que non.
C'est ça, mais c'est ça, donc c'est un film d'animation franco-italien, donc réalisé par Lorenzo Mattotti et scénarisé par Jean-Luc Fromental et Thomas Bideguin. Et c'est basé sur un conte italien qui s'intitule...
OK, donc c'est basé sur un conte, c'est pas historique.
La fameuse invasion des ours de la Sicile par les ours. Hein? Il y a une petite inversion.
Invasion de la Sicile par les ours, peut-être la traduction. Oui,
bon. donc, un conte de Dino Buzzati. Donc, c'est ça, un dessin animé en 2D dont on va aller entendre la bande-annonce.
L'ours est une créature de la nature. Il y a des instincts que nous ne devons pas perdre.
Oui, mais l'eau est quand même un peu fraîche. Ah,
je suis un animal, hein?
C'est ça. Ah. Envoyez! J'ai conquis la Sicile pour te retrouver. Et regarde-toi, tu voudrais être un homme. Tu n'es même pas un ours.
Cette réplique-là me fait vraiment trop rire.
Quand même.
Ça a l'air fort sympathique.
Oui, on l'a vu ensemble, en fait, Mina et moi, ce film-là. Je vais te laisser quand même...
raconter un peu l'histoire. Exactement. Donc, pour retrouver l'ourson Tonio, le fils du roi Léonce, qui a été enlevé par des chasseurs, les ours décident de quitter leur montagne pour envahir la Sicile en affrontant le tyrannique grand-duc. Mais alternent découvertes merveilleuses et désillusions à mesure qu'ils s'accoutument aux manières des humains. Et donc, le long métrage fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes. Oh. Non, la section Un certain regard. Donc, c'est un peu ça l'histoire du film. Ils descendent faire une invasion en Sicile pour retrouver le fils. Et c'est ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Jim?
Moi, j'ai bien aimé quand même. J'ai trouvé ça intéressant. On peut dire peut-être que déjà l'histoire est comme divisée en deux. Mm-hmm. C'est comme si c'était deux contes qui se suivent. Je sais pas jusqu'où j'ai le droit de dire ça, mais en tout cas, la première partie est racontée par comment on appelle ça, pas des promeneurs, des gens de cirque, mais des conteurs itinérants, disons, qui se promènent de village en village avec leur truc, des nomades, ou en tout cas, je sais pas trop. Et la deuxième partie est racontée par un personnage qui est bien choisi pour raconter cette histoire-là. Mmh. Disons ça comme ça. Et c'est intéressant. Donc, on ne dira pas trop de détails parce que ça vaut quand même la peine de le voir pour ça. Moi, comment j'ai trouvé ça? J'ai trouvé ça assez bien. Je dirais que c'est pas parfait. J'ai eu du plaisir. C'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de cinéma d'animation et même en termes de cinéma tout court, là, dans un sens. On voit que le conte est vraiment présent. Je ne suis pas un grand fan de contes à la base. Je trouve qu'en général, je trouve ça un peu plate, des contes, quand c'est raconté. Peut-être parce que je suis très visuel comme personne. Mais là, avec les images, là, j'ai beaucoup aimé.
Les images étaient très complexes et très complètes aussi. Donc, beaucoup de détails, même dans ce qui était dans l'arrière-plan, étaient quand même très bien dessinés.
Oui.
Donc,
oui.
Et de magnifiques couleurs, là, si on va le dire. Moi, c'était très, très beau.
Oui. Et on s'approprie un peu. On a beaucoup de plaisir à voir ces ours-là qui font une espèce de personnification humaine. Il y a beaucoup de métaphores, je pense, à ce film-là.
Il y a beaucoup de métaphores, exact.
Oui.
Oui, vraiment. C'est vraiment. Je trouve que c'est un point. En fait, quand même fort du film, mais je pense qu'on n'a peut-être pas toutes compris les métaphores non plus qu'il y avait à comprendre. Donc, ce que j'ai pu saisir, il y aurait peut-être des liens à faire.
Il y a une rejouabilité là, du film.
Oui, mais je pense qu'il y a aussi un contexte, il y a quelque chose qui fait référence aussi beaucoup à l'histoire italienne.
Okay.
Donc, une histoire avec laquelle on est visiblement moins familier.
Tant que ça, c'est tant en rapport avec l'histoire.
Mais de ce que j'ai compris, on parle en termes de métaphores toujours. Là, il y a des liens à faire, les ours qui descendent. Mais je veux pas dire que ce sont des ours qui sont allés faire une invasion en Sicile, mais semble-t-il qu'il y a des liens à faire avec certaines situations politiques qui se seraient passées en Italie. Mais je pense qu'il y a beaucoup de métaphores aussi, beaucoup plus que ça, à faire de quand on change simplement de milieu, quand on se retrouve dans un nouveau milieu, comment on peut...
réagir.
Oui, perdre certains trucs qui font notre identité, peut-être, ou des choses... Des réflexions profondes, et c'est ce que j'aime beaucoup, en fait, dans les films d'animation, c'est toujours cette espèce de multiniveau-là qu'on retrouve. Donc, au premier niveau, on a un film pour les enfants qui est intéressant, qui est drôle, qui est léger, avec une belle histoire. Et si tu vas plus profond, ben, tu te retrouves avec des réflexions qui peuvent s'appliquer dans ta vie. C'est ça que je trouve...
Et souvent dans les contes aussi, il y a ça.
Effectivement.
On trouve souvent ça, puis c'est pour ça qu'on a... Il y a beaucoup de films qui partent de contes aussi. Tu sais, des fois, on s'en rend pas tout le temps compte. Bon, voilà, très bon gag, mais...
mais moyen, mais quand même.
Derrière, il y a quand même ça là, qui est tout le temps là, puis c'est passé des... Le conte est un moyen de raconter une histoire qui est puissant, qui est très fort. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça fait des bons films souvent.
Oui.
Ouais. En tout cas, moi j'ai trouvé, je ne sais pas jusqu'où ce film-là intéresserait vraiment les plus jeunes. En fait, je me pose la question en t'entendant parler de ça. J'imagine que, bon, oui, ça peut intéresser au même titre que quand j'étais jeune, je m'intéressais à des films qui s'adressent à un public un peu plus vieux que moi. Cependant, les thèmes abordés dans ce film-là sont... Oui, ça peut faire, mais c'est, je sais pas. En fait, je me pose vraiment la question à qui ça s'adresse, ce film-là. Je suis même pas capable de répondre. Parce que c'est peut-être un petit peu trop bébé à mon goût pour un film qui est destiné à des adultes. Puis c'est comme un peu trop adulte pour
peut-être parce que
film
tu
qui
vois le
des
côté
enfants.
Adulte de l'histoire.
Ouais.
Peut-être que pour des enfants, justement, ils vont juste voir la partie...
Le côté enfant. Ouais.
Probablement. Enfant probablement.
Puis faire abstraction de certains trucs que nous, on a peut-être plus compris aussi.
Ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être ça. Mais reste, je suis curieux quand même de... Je me pose vraiment la question du public cible de ce film-là à l'origine. En tout cas, on ne saura peut-être
reste
pas, puis ça peut changer d'un endroit à un autre.
Oui,
tout à fait.
Mais c'était bien.
Oui, on a passé un bon moment,
Moi, je me suis bien amusé. Il y a des moments très drôles.
Oui.
Il y a des moments plus ordinaires, mais sinon, peut-être un peu long, je te dirais, à mon goût. Une heure et demie, c'est pas si long, mais je sentais qu'il y a des moments où on aurait pu condenser un peu. Après ça, on veut quand même que ce soit un long métrage. J'imagine qu'en descendant en bas d'une heure trente, là, ça demande quand même une certaine aisance. Là, parce qu'on veut
comme
que les gens se déplacent.
Comme le film que François est allé voir qui dure 1h24.
Oui, tout à fait.
Bon, ben, 1h24, ça va. Là, mais en bas d'une heure vingt...
Avec les bandes annonces, ça fait 1h30.
C'est ça. C'est comme la...
Il y a peut-être plus de crédit dans le film d'animation. C'est pour ça que ça... c'était plus long
de crédit. C'est peut-être pour ça. C'est ça. Je sais pas. J'ai pas tant de choses à dire, en fait, sur ce film-là. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé la personnification intéressante. L'espèce de dualité d'être un ours versus un humain. À quel point les ours vont devenir un peu des humains à travers le processus. Mais il y a toute une espèce de dimension politique vraiment étrange pour un film de ce genre-là qui apparaît.
C'est ce qui me laisse croire, en fait, que ça fait des liens avec peut-être une situation politique qu'on...
En fait, ce film-là est une belle introduction à tout le concept de Nouvel Ordre mondial, d'Illuminati, de trucs comme ça, avec des ours.
Quand même.
Je dirais que pour ça, c'est intéressant. Mais c'est ça, c'est sympathique.
Tu donnerais quelle note, Jim?
Probablement, je donnerais un 8.
Quand même.
Je trouve ça
comme
agréable. Moi aussi, un 8, ouais.
Waouh.
Je trouvais ça agréable. Enfin, c'était bien.
C'était bien.
C'était bien. Je ne suis pas « wow, quel film incroyable », parce que ça, on va en parler tout à l'heure quand je vais parler de mon film. Mais, mais non, c'était bien, c'est sympathique. Puis moi, j'irai le voir, hein, ça à votre place, si vous avez envie. Et un peu plus tard, dans la demi-heure, on va vous parler du film que François a été voir, « Ma folle semaine avec Tess ». Donc, deux films à critiquer. Et peut-être une petite surprise en fin de demi-heure pour vous. On va vous parler
de
quelque chose de spécial. Enfin, un événement qui s'en vient dont on veut vous parler. Mais je vais arrêter d'en parler. Je suis en train de tout dévoiler.
Ben oui, il ne faut pas.
Attention.
Il ne faut pas divulguer.
Restons calmes. Oui, bon, voilà, merveilleux. Donc, moi, je vous parle du film Donne-moi des ailes, production France-Norvège, film d'aventure. J'imagine que c'est une bonne façon de le catégoriser. De Nicolas Vanier. Nicolas Vanier, qui est le réalisateur qui nous avait donné l'extraordinaire film L'école buissonnière il y a 2 ans, je pense, et Belle et Sébastien auparavant. Donc, on part déjà avec un gros nom en ce qui me concerne. C'était dans mon top 5 des films de la décennie.
L'école buissonnière qui était tellement beau comme film.
Film extraordinaire. Déjà, ça mettait la barre assez haute pour voir ce film-là. Bon, sinon, au niveau des acteurs, le film en vedette Luis Vasquez, je pense que ça se prononce comme ça, Jean-Paul Rouve, qu'on connaît beaucoup, et Mélanie Douté. Jean-Paul Rouve, qu'on voit, je dirais pas enfin, parce que ça s'est déjà vu, mais qu'on voit généralement dans des comédies. Et que cette fois-ci, on voit donc dans un film qui n'est pas tout à fait une comédie. En fait, pas du tout une comédie. Quelque chose qui est intéressant. Voilà. Donc, sans plus attendre, un petit extrait de la bande-annonce pour nous mettre l'eau à la bouche.
Je peux pas m'occuper de toi pendant les vacances, donc tu vas aller chez ton père, à Saint-Romain.
Certains oiseaux reconnaissent pour parent la première personne qu'ils voient. Donc là, techniquement, t'es son père.
Tu vois cette espèce d'oie, elle est menacée. Alors pour la sauver, j'étudie un nouvel itinéraire qui est moins dangereux pour aller jusqu'en Norvège. Pour qu'elle le suive, bah il faut que je leur montre la route.
Pour la Norvège, c'est évident, ils veulent pas sur ton truc, hein.
Mais bien sûr. Hein?
Donc voilà, Donne-moi des ailes, film de Nicolas Vanier. Mm-hmm. Et Mélina, on l'a vu encore une fois ensemble, mm-hmm. C'était une semaine prolifique pour nos écoutes communes. je vais parler un petit peu du résumé, mm-hmm. puis après on en jase. Donc, vous l'aurez entendu un peu dans la bande-annonce, Thomas, je pense qu'il a 11 ans à peu près, Thomas est forcé de passer les vacances chez son père au bord d'un marais. Et Thomas est habitué à ses jeux vidéo, à disons, sa vie un peu plus urbaine. Et il se prend à découvrir, malgré lui, que la vie est autre chose. Et quand il aide son père dans ce projet saugrenu qui vise à sauver donc, une espèce d'oie sauvage en mm-hmm. voie de disparition, en leur proposant un itinéraire de migration alternative vers la Norvège. Ça va, Dorian, mais c'est moi qui ai écrit ça. c'est un peu long comme phrase. Il se lie donc d'amitié avec les oiseaux et, évidemment, malheureusement, il va y avoir des problèmes qui vont subvenir et qui vont nuire à l'expédition. Et c'est là que Thomas va tenter de sauver le projet en emportant les oies avec lui. Là, je sais que j'en ai dit beaucoup, mais tout ça est pas mal dans la bande-annonce,
oui,
donc
je me
dis que ça va. Et de toute façon, ce film-là, c'est pas un film de « wow, je m'attendais pas à ça », c'est un film de « wow, c'est beau, c'est bien fait ».
C'est ça.
C'est pas un film de comment dire, c'est pas un film qui est là pour nous surprendre. Je pense que quand on a vu la bande-annonce, on sait pas mal où on s'en va avec ce film-là. Maintenant, c'est de quelle façon c'est amené, de quelle façon c'est fait, que c'est ça qui est intéressant. Donc, Mélina, tiens, qu'est-ce que tu as pensé de ce film?
Mais déjà, je trouve que le concept que ce soit basé sur une histoire vraie mm-hmm. rend ça vraiment très intéressant. Donc, le côté de ce que j'ai compris, le côté de l'adolescent est inventé pour l'histoire.
Ouais.
Mais le gars, depuis 1995, il fait vraiment ça et ce n'est pas la seule espèce d'oiseau qu'il a réussi à réhabiliter. Donc, il y en a d'autres. Donc, je trouve que côté-là au film donne une profondeur que si ça n'avait pas été basé sur une histoire vraie, ça aurait été difficile à croire, je pense.
Oui, effectivement. Je pense que ça aurait été, il y aurait beaucoup de gens qui auraient dit c'est pas possible. Puis même dans le film, il y a beaucoup de gens qui doutent du projet en tant que tel. Parce que là, on le spécifie pas, mais quand on voit la bande-annonce, on le voit. La technique, c'est d'utiliser une espèce de... C'est pas un avion, j'ai oublié comment ça s'appelle.
Eux autres, ils appellent ça un ULM.
Un ULM, donc c'est une unité probablement...
Il part sur l'eau, puis il atterrit sur l'eau.
C'est comme un gros ventilateur, puis qu'une voile, puis ça vole. Ça vole, ça vole assez haut même. Ouais. Sauf que c'est ça, c'est pas un avion, c'est quelque chose que tu as le vent dans le visage. Là. Et cet appareil-là...
Ça a l'air agréable quand même.
C'est comme si tu étais assis sur un petit siège de tricycle.
Mais tu voles pas si haut que ça.
Ah, tu voles quand même assez haut. Tu peux voler au-dessus des nuages, tu veux.
Tu
voles, puis tu mets de l'essence à bateau là-dedans. Tu sais, c'est vraiment spécial.
OK, on est là.
Mais ce qui est intéressant de ça, c'est que, il y a des défis techniques importants dans ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le concept, c'est qu'ils habituent les oiseaux bébés, ils sortent de l'œuf, au bruit de cet appareil-là. Mm-hmm. Okay. Pour que ça devienne comme quelque chose naturel. De commun, naturel. Oui. Et après ça...
Pour qu'ils s'imprègnent aussi, les bébés du père aussi, de lui qui représente un peu, finalement, son fils. Et lui qui représente les parents de ces oiseaux-là. Il faut que les oiseaux, dès qu'ils percent leur petite coquille de leur œuf, il faut qu'ils voient, qu'ils les voient eux. Et alors, ils s'identifient comme étant leurs parents. Et là, ils les suivent.
Oui, puis là, il y a plein de subtilités là-dedans, on n'entre pas dans les détails, mais tu sais, ils se déguisent, il y a tout un...
Oh my God,
c'est quand même complexe.
Je suis pas certain que Freud trouverait qu'il y aurait des problèmes là-dedans, mais...
Oui, je pense que c'est des oiseaux qui vont vivre différents en blocage.
Oui.
Mais dans tous les cas, et ce que ce film-là essaie de montrer, c'est que si on les habitue très jeunes, on arrive à faire en sorte que les oiseaux vont suivre cet appareil-là, mm-hmm. Et de cette façon-là, ils vont les humains créent donc un itinéraire qui les fait passer à des endroits qui ne sont pas dangereux pour eux, des endroits où il n'y a pas de lumière artificielle, des endroits où il n'y a pas de danger, pas d'aéroport.
De lignes électriques.
C'est ça, d'endroits où ils sont en danger. Et quand les oiseaux ont fait une fois le chemin, ils refont toujours le même chemin. Donc, c'est ce principe-là qui est intéressant. Alors, on ne rentre pas dans les détails techniques du truc, mais... Le film l'explique très bien. Oui.
C'est intéressant.
Parce qu'on aurait pu ne pas aller dans les détails, justement, puis juste dire c'est fait sur une histoire vraie, fait que.
Croyez-le, c'est ça.
Ouais, je pense qu'il y a quand même une nécessité. On voulait montrer dans ce film-là que beaucoup de gens étaient sceptiques de ce projet-là. Mm-hmm. Et bon, ce que ce film-là essaie de montrer, on ne cachera rien en disant, vu que c'est une histoire réelle, que c'est ce que ça fonctionne. Donc, je suppose que ça fonctionne encore. Ouais. Maintenant. Il y a des problématiques politiques autour de ça, des problématiques légales. Il y a différents sujets au niveau de la contamination, au niveau d'un paquet de trucs. Mm-hmm. Bon, ce film-là entre dans ces détails-là. Et il y a une relation aussi parent-enfant à travers ça, passage à l'âge adulte à travers ça. Il y a toute cette dynamique-là qui est amenée aussi, qui rend ce film-là complet dans différentes... sphère. Et c'est pas sans nous rappeler le film L'école buissonnière où on voyait un enfant, ça se passait évidemment à une autre époque, mais on voyait un enfant qui était d'un orphelinat et qui développait une relation particulière avec
le garde-chasse.
Oui, qui est pas parent directement. Mm-hmm. Et tout ça faisait en sorte que on a un passage, une découverte de la vie et du monde qui nous entoure d'une façon beaucoup plus naturelle, beaucoup plus réelle que ce qui était là. On retrouve ça là-dedans et c'est évident. Le réalisateur, Nicolas Vanier, est un explorateur, est un aventurier. Mm-hmm. Donc,
je pense aussi un amoureux de la nature.
Et encore là, avec les oiseaux, on revit ça et on les voit, les oiseaux, de tous les angles possibles. C'est pas... je dis pas qu'il y a pas eu de CGI puis de modification par ordinateur pour rendre ça correct.
Mais il disait que c'était très difficile de faire le tournage parce qu'il faut que les oiseaux soient dans...
Faut qu'ils fassent ce qu'on veut, là.
Oui, exactement. Ouais. Il dit que c'est pas si facile. Il faut que toutes les conditions idéales soient réunis. Donc, chaque jour de tournage devient un défi.
La bonne météo, parce que là, il faut que ça soit consécutif. C'est vrai. Sinon, ça ne marche pas.
C'est vrai.
En plus, c'est que les oies, il faut qu'ils suivent l'appareil.
Oui.
Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient déjà entraînés pour ça. Tu ne peux pas aller avec des oies qui sortent de nulle part. Ils ne vont pas suivre un avion, ils vont se sauver. Ça a obligé, à mon avis, ce tournage-là à recréer ou à utiliser des éléments réels de ça. Ça, c'est fascinant. Bon, maintenant, les gens qui veulent entrer vraiment dans les éléments plus techniques, des petites erreurs peut-être techniques, on passe facilement par-dessus, mais effectivement, si on compte le nombre d'oiseaux, on se rend compte que parfois, il y en a beaucoup moins. Parfois, ils sont comme 14, 12, il devrait être 20, 22. Mm-hmm. On voit que ça varie selon les plans, selon les scènes, mais on s'arrange pour nous mettre ça en mouvement.
Ça paraît pas trop,
mais c'est sûr que quelqu'un d'observateur va le voir. On l'accepte.
Moi, je l'ai remarqué, mais je l'ai accepté.
C'est tellement difficile de faire ça que moi aussi, je suis passé par-dessus ça sans problème.
Ouais.
Mais effectivement, c'est pas parfait. Donc, il y a des erreurs. Point positif, il y en a beaucoup. Point négatif, moi, il y en a juste un qui m'a vraiment dérangé, c'est la musique. Musique vraiment à l'américaine, en anglais, des musiques un peu folk, mais un peu comme on entendait dans la bande-annonce. Ouais, genre de musique-là qu'on retrouve là-dedans. C'est de la musique qui a été clairement cherchée pour aller réveiller certaines émotions, certaines mélancolies, des choses comme ça. Mais c'était pas nécessaire. Comme ça, c'est... Moi, j'aurais pas été là-dedans. Puis je vous avoue, là, je suis peut-être biaisé, mais je suis pas un fan de la musique avec paroles dans les films. Je préfère la musique sans paroles. Des fois, ça s'y prête parfaitement, puis ça va bien. Mm-hmm. Dans ce cas-ci, je trouvais que ça avait pas rapport. Je trouvais que la musique, oui, musicalement, l'émotion était la bonne, mais les paroles, pas vraiment... on n'était pas là où il fallait aller au niveau musical. Donc ça, c'est mon gros point négatif du film.
Tu vois, moi, ça ne m'a même pas dérangé pendant le film, mais c'est quelque chose qui peut me déranger à de nombreuses reprises, surtout dans les séries télévisées que j'aime beaucoup regarder. on utilise la musique avec parole
ouais.
tout le temps. Mais tu vois, dans ce film-là, c'est pas quelque chose qui est venu me déranger particulièrement.
Mais t'es peut-être plus optique que moi, parce que moi, tu vois, ouais, justement, oui. dans les séries télévisées, quand il y a ça, je décroche. Mm-hmm. J'arrive juste pas à embarquer. Ça, ça
ouais, le pire, ah, ça c'est quand il parle. Il parle.
Il parle, puis là, t'as la parole. Il y a une augmentation du niveau de la musique, puis là, t'entends des paroles, puis là, il passe, puis il parle par-dessus. Ah,
il parle par-dessus, puis là, des fois, tu jumelles ça avec une narration, puis là, ça devient chaotique pour le cerveau auditif.
Ça, ça devrait pas être légal, à mon avis.
Mais pour revenir. Oui, oui, film,
ben, quand les gens parlent, c'est vrai que c'est plus difficile, mais...
ouais. C'est plus difficile d'entendre ce qu'ils veulent
oui,
dire.
Oui, oui, oui. Mais des fois, il y a des raisons aussi au niveau économique, au niveau... On essaye de pousser un artiste, on essaye d'être aussi à la mode un peu, de dire, ah, si, il y a une chanson de quelqu'un que j'aime qui est dans une série ou dans un... Ah, je vais l'écouter.
Des fois, ils se font imposer ouais, des choses aussi.
Des fois, ils se font imposer des choses aussi. Fait qu'il y a tout plein de ouais. raisons, des fois.
Non, c'est clair. Je comprends ça.
Oui. Ça risque qu'à part pour ce point-là, je considère Nicolas Vanier comme étant un réalisateur très poétique.
Oui.
Qui réussit vraiment... Parce que je pense que ce film-là, de la part d'un autre réalisateur, aurait pas eu la poésie que ce film-là a.
Et... La beauté des petites choses.
Exact.
Ça, c'est présent.
Et c'est ce qu'on vivant. Retrouvait aussi. C'est ce qui nous a fait fondre dans l'école buissonnière.
Oui.
Et je trouve ça vraiment dur à exprimer parce que c'est pas nécessairement des techniques cinématographiques. C'est pas nécessairement des plans de caméra. Aussi. On dirait que c'est vraiment un ensemble de choses qui fait que tu rentres dans la poésie de ce qui te propose. Puis tout est très poétique et ça fonctionne, mais... Ça a un côté apaisant de voir ces films. Du moins, pour moi, pour l'instant, les deux que j'ai vus, j'ai toujours trouvé ça que ça fait du bien. C'est comme un baume au cœur, comme on dit. C'est cette poésie-là, je trouve qu'il, je sais pas, il réussit à aller chercher une sensibilité qui est rare, je trouve, au cinéma, des fois.
Effectivement. Puis de jouer avec un enfant ou un adolescent, dans ce cas-ci, pour faire... créer cette complicité-là n'est pas si facile parce qu'on a des personnages, pour être crédibles, ces personnages-là sont dans une autre réalité. Et d'arriver à faire ce pont-là, à amener cet adolescent-là à s'intéresser puis à s'émerveiller de cette nature-là, puis ça fait dans les deux films, ça a été le cas, ça demande une certaine capacité. Là. Ça demande quelque chose. Oui. Là. Il y a une capacité qui est là, qui est assez inhabituelle.
En tant que réalisateur, oui. définitivement. Mais je pense que c'est vraiment un poétique amoureux de la nature. Mmh, ouais. Et je m'attends
il
à
se voit sûrement quand il était jeune. Il doit avoir quelque chose là, avec lui-même.
Peut-être, oui.
Qu'on retrouve dans tous ses films.
Là. Mais c'est sûr qu'après avoir dirigé des oies, un enfant, ça devient plus simple, là, j'imagine. Parce que...
mais ça dépend, je sais pas jusqu'où il dirigeait les oies.
Ouais, je sais pas.
Il devait avoir pas mal d'oiseaux dans cette histoire-là pour que ça fonctionne. Ça. Mais non, c'est un beau film, les personnages sont le fun. Deuxième point négatif là, pour moi qui m'a un petit peu dérangé, c'est pas majeur, mais j'ai trouvé qu'on avait fait quelque chose qui c'était pas nécessaire de faire ça. Là. Il y a une relation particulière donc entre le père et la mère et le nouveau chum de la mère, donc le beau-père, finalement, de Thomas.
Oui, je suis en train de dessiner le...
Donc, parce que c'est du côté de sa tante. Non, c'est pas vrai. Okay. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une relation qui évolue. Il se passe quelque chose par rapport à ça. Donc, le vrai père, le beau-père et la mère. Et j'ai trouvé que ça, c'était... totalement inutile. J'ai trouvé que ça avait été amené là, je sais aucunement pourquoi. Il y aurait eu moyen d'aller vers ça, mais on y va juste un peu, puis finalement, ça sert
pas,
à rien.
Pas assez assumé.
Non, c'est comme pas assumé, ou peut-être qu'on n'a pas eu le temps, peut-être ça a été coupé, je sais pas. Mais on perd l'intérêt de cette portion-là, puis on se sent un petit peu floué d'avoir été là-dedans, puis que ça se finisse de cette façon-là. Moi, j'ai pas aimé ça. Ça, je t'avoue que ça m'a un peu énervé. Mais bon, j'avais des attentes quand même assez élevées envers ce film-là, donc c'est évident que
plus moi, que ça d'attente, plus que déception. D'une autre façon que toi, en fait, cette relation-là dans le film. Et c'est drôle à dire comme ça, mais comment moi j'ai vu le film, c'est qu'il y avait plein de petites relations où on venait montrer des choses qu'on ne montrait pas nécessairement dans les relations. Et ce que je veux dire par là, je vais parler de la relation entre Thomas et Aka, donc, qui était l'oie, l'oiseau, qui n'était pas vraiment une oie. Il développe une relation très particulière avec elle. Et pour moi, il y avait tout le temps, quand on voyait les scènes, il y avait tout le temps un parallèle à faire entre ce que son père vivait
qui était comme l'intrus
par rapport à lui. Non, dans le sens que lui, son père avait son fils, son fils avait Aka et il y avait cette espèce de relation-là de protection. Et il y a un gros côté dans ce film-là qui est la... Comment tu laisses ton enfant voler de ses propres ailes?
Oui, ça, c'est très profond. Dans
peut-être justement que le lien, on voulait essayer de surligner le lien en disant « Hey, si t'as pas catché le lien entre l'oiseau puis le kid... »
Mais non, mais tu vois, ça marchait, à mon avis.
Tu vois,
mais justement, de le remettre en tant que ce lien-là aussi, ce problème-là, avec des adultes ou avec des humains, en disant « Ben, il y a un parallèle à faire. » Est-ce que c'est...
Mais moi, c'est dans le sens que je voyais beaucoup de petites relations comme ça dans le film. Donc, entre Thomas et Aka, entre Thomas et son père, le père de Thomas et la mère de Thomas, je voyais beaucoup de ces relations-là qui étaient comme un reflet des autres relations, comme un miroir qui venait refléter les autres relations. Bon, peut-être que j'ai poussé trop loin dans la poésie, dans ma tête, de la symbolique
de ce
film.
Ça a fonctionné avec toi, visiblement.
Mais ça a fonctionné parce que j'avais l'impression que tout ça se reflétait en écho à différentes périodes, de différentes façons, des relations complètement différentes. On parle quand même d'un humain avec un oiseau, parent-enfant, ex-conjoint, ex-conjointe, mais qui venait profondément parler de la même émotion, du même, de cette espèce de l'amour. Mais vous savez, on dit quand t'aimes quelqu'un, laisse-le aller.
Mm-hmm.
Pour moi, ça était visible dans toutes les relations à un différent niveau.
Effectivement.
C'est comment moi je l'ai vu, mais c'est ça.
Oui, ben c'est ça. Tu vois, ça m'a agacé, mais cette portion-là, je la trouve correcte, sauf que je pense que, bon, on dévoilera pas la fin, mais je pense que la fin n'était pas nécessaire là, en ce qui concerne cette portion-là, disons, des relations familiales de ce film. Donc, film « Donne-moi des ailes », je pense qu'on est rendu à donner nos notes.
Oui.
Mille
vas-y.
Moi, j'en ai 8.5. Oh. C'est plus bas que ce que j'ai donné, évidemment, qui était un 9.5 au film
« L'école buissonnière ».
C'est moins. Bon, j'ai eu, comme vous voyez, des petits désagréments. Je trouve que le film est un petit peu trop long aussi. Au niveau du rythme, il y a des petites affaires qui m'ont accroché. Sauf que la poésie est extraordinaire, l'histoire est belle, c'est magnifique de voir les oiseaux et tout ça. C'est vraiment bien. Maintenant, c'est un film qui a des défauts. Peut-être beaucoup plus visible que dans d'autres films. Mais il y a des beaux moments aussi. Il y a des belles choses qui viennent en annuler quelques-uns, mais pas tous. Donc, voilà pourquoi je donne un 8.5 au film. Donne-moi des ailes, qui est un très bon film. Oui.
Moi, j'y vais avec une note simplement pour pouvoir faire des blagues. J'y vais avec le 9. Vous savez, comme un 9, comme quand j'ai vu les oies sortir de l'œuf. J'ai tout de suite été charmée pour donner un 9.
Oui, chance que ça avait pas... une chance que c'était pas un film de chat, t'aurais donné un 4.
Oh là 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 là.
Oui, François, humoriste né.
Et voilà.
Incroyable. Et toi, François, t'as vu la bande-annonce, tu donnes combien?
Ah, écoute, ça donnait des frissons.
Bon, excellent. Voilà, merci, c'était notre critique, donc, de Donne-moi des ailes. Et François, toi, on t'a pas donné des ailes, on t'a donné une folle semaine avec Tess.
Oui, tout à fait. Ben, parce qu'il y en a qui disent que Donne-moi des ailes, c'était quelqu'un à la cage au sport qui collait son serveur. Mais moi, tu vois, il y a des gens qui pensaient que ma folle semaine avec Tess, si ça avait sorti au Saguenay, ça aurait parlé d'une voiture. Hein? Parce que ma folle semaine avec Tesla, ça aurait été, ça avait sorti
pourquoi
au Saguenay.
Tesla. C'est poussé. On voit que tu as pris quand même un certain temps à écrire cette...
ce gag-là. C'était assez recherché. Oui, j'étais allé jusqu'au Saguenay pour le trouver. Alors, voilà. Donc...
T'as pas trop saigné du nez.
Saguenay, du nez.
Et oui, on peut dîner, on peut dîner. Houston, we have a problem. Alors, donc, qu'est-ce que ce film?
Ouais, la folle semaine, ça devait être fou. Pareil.
Oui, ben en fait, c'est un film qui nous vient d'Allemagne et des Pays-Bas. Oui, alors un petit deux pays là ici dans ce film là qui est réalisé par Steven Wutterlood. Et là les noms ça va être compliqué là. Alors les acteurs, il y a Sonny Koops van Uteren. J'ai roulé le R, je sais pas trop si c'est ça.
Ça me rappelle quand j'ai parlé de Millennium. Oui, continue.
Après ça, il y a Joséphine Arendsen, Djibo Garitsma, Jennifer Hoffman.
C'est drôle, intéressant. Elle, ça se dit bien.
Oui, là, ça se dit un peu mieux. Le restant, bon, je vais arrêter de massacrer des noms. et on va tout de suite rentrer dans le synopsis du film. Qu'est-ce que ce film-là? Ben, en fait, il y a quand même des liens à faire avec Donne-moi des ailes.
Ah
parce
oui?
que
c'est les oiseaux?
Ben non, c'est Sam, un petit gars de 11 ans.
Ben oui, toi.
Hein? Il y a des liens partout, Jim.
Ah, c'est...
Tout à oui. fait. Alors, Sam est en vacances d'été avec sa famille sur une ravissante île néerlandaise. Donc, d'où pourquoi, là, hein, Pays-Bas, ça vient du Pays-Bas. Ouais. Donc, tout ça est dans l'histoire. Il décide d'aller s'isoler quelques heures chaque jour pour s'habituer à vivre seul. Hein? Ça, c'est quand même assez étrange. Mais,
ouais, ça part drôle.
Oui,
ouais.
oui, tout à fait, tout à fait. Mais il va rencontrer une fille qui s'appelle Tess, qui est intrépide et qui va bousculer tout son projet d'être tout seul. La jeune fille a un petit secret et elle entraîne Sam dans cette mystérieuse mission. Et mon Dieu, on se croirait dans le prochain James Bond. Elle attendait pas novembre, ça sent ça.
Oui, ben oui.
Alors cet été va changer complètement leur vie. Ouh! Mmh. Et là là! Alors avant de... Je sais que là tout le monde dit, mais mon Dieu, ça sonne à quoi ça? Ça rime à quoi? Ben on va écouter la bande-annonce.
Quoi? Rien. Tu sais danser de la salsa?
Non.
Parfait. On apprendra ensemble, alors. Tess.
Sam. Les gens me trouvent souvent bizarre. Mais cette fille, elle l'était 100 fois plus.
Wow. Allons-y, je dirige.
Mais c'est moi, le garçon.
Chut. Mon père est mort. Dans une éruption volcanique. Ma mère m'a toujours dit que j'avais pas besoin d'un père. Salut.
Bonjour. On dirait que c'est du sérieux entre ces deux-là.
J'ai besoin d'être un peu seule un moment. Tess!
Et voilà. C'est pour ça que c'est mieux de ne pas trop s'attacher aux gens. Il fallait que je m'entraîne à être seule.
Désolée de te le dire, mais t'es complètement cinglée. Avec ton entraînement et tout.
Eh ben...
Quand même, hein, tout à fait.
Film qui a l'air très bon.
Oui, ben en fait, assez intéressant. Bon, évidemment, on va pas révolutionner non plus le film. Bon, la petite romance entre des jeunes,
enfants,
ça change ton été. Bon, tout à fait. Mais il y a quand même pas juste ça comme histoire dans l'histoire. Donc, je trouve ça quand même intéressant que ce soit pas que ça. Après ça, il y a des petites parties dans la trame narrative que je me dis, bon, c'est pas nécessairement nécessaire. On débloque pas, on ouvre des portes sur des affaires qu'on n'exploite pas assez, je pense.
Ah oui.
C'est vraiment ma folle semaine avec Tess, ça le dit. Donc, on passe une semaine, c'est une semaine de vacances. Donc, après ça, il veut pas. Ben, tu sais, c'est la fin des vacances.
Ils
ne
se reverront pas.
Ben, on sait
ils
pas.
Ils vont peut-être se retrouver dans 10 ans avec leur famille.
On sait pas, mais c'est l'histoire, c'est vraiment là. Une semaine de intense, vraiment, qu'on raconte.
Toute l'histoire du film se passe en une semaine.
Ouais, c'est ça qui se passe. Et donc, c'est quand même assez intéressant. Ça révolutionne rien, mais c'est intéressant, c'est le fun, c'est charmant. Ça se prend bien, ça s'écoute bien. Bon, évidemment que peut-être qu'en été, ça aurait été plus le fun aussi à écouter, mais bon, hein, ça, c'est toujours le fun
ouais,
à écouter.
Oui, ça fait film d'été, effectivement.
Ça fait
longtemps qu'on voit la bande-annonce et que ce film-là est annoncé. Moi,
oui,
je pense qu'il l'avait repoussé, en fait.
C'est possible.
Oui. Il y a des petits moments un petit peu contemplatifs, presque,
ah oui?
dans ce film-là. Mais des petits moments où, justement, peut-être pour essayer de montrer qu'il était seul, la solitude, fait qu'il y a des moments où qu'on dit, ben ok, c'est des beaux paysages aux Pays-Bas, mais ça fait. Mais sinon, il y a quelques petits moments aussi où que je trouvais qu'il y avait des belles métaphores là-dedans, des belles réflexions aussi, vraiment au niveau du texte, des fois, des belles réflexions, c'est vraiment intéressant. Mais des fois, je trouvais que ça faisait un petit peu scolaire, le côté clairement, on te montre la métaphore, ah ben oui, puis là, on reste 5 secondes, c'est la métaphore d'une image qui montre, ben c'est un peu surligné là, des fois. Là. Fait que ça, je trouvais ça peut-être un petit peu intense des fois. Mais sinon, c'est intéressant comme film. Quand même intéressant. Je donne un 7.5 sur 10. C'est un beau petit film à aller explorer.
Mais tu as été d'une concision, François. C'est
ben,
incroyable.
Le temps file. Le temps file.
Et rapidement, François, tu veux nous parler du... Merci pour ta critique, d'ailleurs. Tu veux nous parler du Kino Show qui aura lieu dans quelques jours.
Oui, tout à fait. Le 11 mars à 19h. Donc,
c'est mercredi.
Au Café Baobab.
Mercredi.
Okay. Tout à fait. Effectivement, ça va être le Kino Show science-fiction action. Donc, on va se donner. Ça va être magique. Donc, allez voir ça. Des courts-métrages.
Action, des courts-métrages.
Oui, projection de courts-métrages ludiques, assez intéressant. Des concours, des tirages, des jeux, des courts-métrages, des entrevues, de la folie. Ça va être magique. Animé par moi-même, Jim.
Ben oui, François Genet, l'animateur du Kino Show.
Alors,
écoute,
si vous avez aimé tous les magiques jeux de mots que j'ai fait au courant de l'émission.
Ben oui, il va en avoir encore plus au Kino Show.
C'est comme un spécial 100% joke de François.
Ouais, c'est ça, exactement.
Donc, Kino Show, ce mercredi à 19h?
11 mars, 19h.
19h.
Café
okay.
Baobab.
Café Baobab. Excellent. À Sherbrooke. Oui. Bon, ben voilà. Ben c'est super ça. Merci beaucoup, François.
Ben, merci à toi, Jim.
Et merci à Mélina. Merci à tous nos auditeurs d'avoir été là encore une fois avec nous pour Cinébrunch. Et c'est déjà la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 11h, rediffusion le mardi à la même heure ou en balado sur notre site web cinébrunch.com ou sur votre téléphone intelligent. Alors, on se dit à la semaine prochaine, tout le monde, pour un autre Cinébrunch.
Bonne semaine.